RCF.
Dominique Lang, vous disiez précédemment que pour s'engager sur la voie de la non-violence, la contemplation du Christ est la voie, probablement, le chemin le plus sûr. Mais on sait bien que notre vie, elle n'est pas faite que de contemplation. Loin de là. On est tous marqués, qu'on le veuille ou non, par la haine, par la violence. On est habité, on porte en nous-mêmes une forme de violence. Alors comment est-ce qu'on peut se débrouiller entre cette vocation qui est la nôtre de contempler le Christ, de le suivre, de s'engager à sa suite, et en même temps, cette tendance à la haine et à la force et à la puissance?
Alors on évoquait la figure de Jacques Ellul, et je trouve que dans le texte qu'il propose contre les violents, il donne une clé assez simple que je trouve utile, c'est-à-dire en tant que chrétien, être confronté au péché en nous et autour de nous. C'est pas étonnant en soi, on le sait. On est des pauvres en chemin. La seule question, c'est de pas jouer avec ça, finalement. De pas faire croire que nous serions capables d'être au-dessus du lot, que nous serions capables de dépasser ça juste par notre volonté ou notre capacité. Ce que ça m'évoque, c'est cette belle parabole qui, à mon avis, est une des paraboles les plus centrales dans la vie spirituelle du publicain et du pharisien. Jésus évoque ces deux personnages qui viennent au temple de Jérusalem et l'un d'entre eux va devant et pavane et dit « Ah Dieu, qu'est-ce que tu es bon avec moi, tu m'as donné tout ça et merveille, mais regarde ce pauvre malheureux derrière, mais qu'il est nul, etc. » Et celui qui est derrière, le pauvre publicain, qui sait bien qu'il est un pécheur parce qu'il est un collabo avec les Romains, tout ça, il n'ose même pas lever la tête, il dit « Mais je sais pas pourquoi je suis venu, c'est pas ma place, vaut mieux que je rentre chez moi, mais Seigneur, si tu veux bien, donne-moi ton pardon » et il rentre chez lui. Et Jésus dit « Mais celui qui a été exaucé, c'est bien le deuxième, c'est pas le premier. » Là, il y a une réponse assez claire, assez définitive, c'est que la question, c'est est-ce que je suis prêt à renoncer à la puissance qui est en moi? Et c'est pour ça que dans ma réflexion, j'ai glissé un peu de la question de la violence, qui est une expression importante de ce que nous vivons, à la question de la puissance, qui est un rapport plus profond, plus intérieur.
Qu'est-ce que c'est la puissance et le désir de puissance?
Dans la parole de Dieu, quand on cherche un peu quels sont les mots utilisés pour parler de la puissance, on voit qu'il y en a plusieurs. Il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a la force, il y a l'énergie, etc. Il y a des mots grecs et hébreux qui sont souvent traduits par le même mot de puissance dans les Bibles, et ce qui fait que parfois on est un peu perdu parce que on parle de la puissance de Dieu, de la puissance des hommes. On a l'impression qu'on parle de la même chose, alors que c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a un des mots qui pour moi est beaucoup plus éclairant dans l'univers grec du Nouveau Testament pour parler de la puissance, c'est le dynamos, qui donne en français la dynamique. Alors la dynamique pour nous ça veut pas dire grand chose, mais dans le monde grec, c'est cette puissance de vie qui nous permet de ressusciter dans les épreuves, qui nous permet de croire quand même que Dieu est fidèle.
Une énergie de vie.
Énergie, voilà. C'est, alors l'énergie évoque, le mot grec évoque l'idée de force, qui est intéressante, mais c'est pas toujours dans la force. Parfois, c'est aussi dans la faiblesse. Et donc, cette dynamique, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est faire l'expérience de l'Esprit-Saint qui travaille en nous, sentir que c'est lui qui vient sans cesse renouveler la face de la terre. Et ça, c'est totalement autre chose que de vouloir être fort, grand, beau, impressionnant, etc.
D'où elle vient la violence qu'on porte, d'après vous ?
Ben, si je savais, en tout cas.
Dans le livre, vous dites en tout cas qu'elle est souvent le fruit d'une accumulation de colère, de frustration. Et puis aussi, on en hérite quelquefois à travers les générations.
Alors ça, c'est très impressionnant. Hein. Dès le début du livre de la Genèse, il y a une transmission biologique de cette expérience de génération en génération, comme si le péché originel s'était tellement marqué dans le cœur de l'homme qu'il se transmettait naturellement au fil des générations. Ce qui a d'ailleurs un peu faussé notre regard sur la transmission biologique. Du coup, on s'est méfié un peu de cette sexualité qui transmettait le péché, ce qui nous a quand même un peu plombé par moments notre regard sur nos corps, etc., qui auraient été source de mal en eux-mêmes, etc. Heureusement, on s'est dégagé un peu de tout ça maintenant, mais en tout cas, on fait bien l'expérience dans nos propres familles que parfois on traîne des histoires qui ne viennent même pas de nos parents ou de nos grands-parents, parfois même de plus loin, ou des cadavres dans les placards, des histoires dont on ne parle pas, des violences familiales et qui nous pourrissent au quotidien.
Est-ce que la violence qui se manifeste parfois, c'est pas aussi une manière de se protéger? Et si on considère que l'homme est un animal comme les autres, bah, y a un enjeu de survie aussi, peut-être.
Alors ça, c'est toujours un peu délicat, cette frontière-là. Et alors là, je réagis un peu comme biologiste, puisque c'est ma formation au départ. Et je pense un peu à François d'Assise aussi, quand il, dans son cantique, il dit « Notre sœur la mort », appeler la mort comme quelque chose de fraternel, c'est toujours un peu surprenant, parce que pour nous, c'est plutôt un échec ou une douleur. Mais évidemment, François d'Assise avait perçu que dans notre existence, il y a une naissance et il y a une mort, et que ce sont des étapes naturelles de notre vie, c'est des lieux où nous savons qui nous sommes et qui nous avons été. Et donc ce n'est ni la naissance ni la mort qui sont source de violence. Par contre, ces expériences peuvent être des lieux de violence quand les humains qui sont autour et qui accompagnent ces expériences créent des conditions déshumanisantes ou de maltraitance. À ce moment-là, la mort devient une expérience spirituelle douloureuse, terrible, d'échec. Et la torture qui était soumise au Christ sur la croix est quand même le signe que l'expérience de la mort naturelle qu'il aurait pu vivre est devenue un enfer épouvantable pour lui.
Dominique Lang, on a parfois tendance à avoir la frontière entre le bien et le mal, la violence et la paix, en dehors de nous, en dehors de notre propre vie, de notre propre ressenti. Or, la frontière, est-ce qu'elle est vraiment en nous ?
J'ai quand même bien l'impression. Je pense souvent à ce passage quand Jésus rentre chez lui, il a commencé à voir son groupe d'apôtres, il commence à prêcher un peu partout en Galilée et sa réputation commence à se faire. Et puis un jour, il décide de passer par Nazareth et il rentre dans la synagogue et il soigne un homme le jour du Shabbat, etc. Et on sent la colère qui monte, la violence, tout ce que les gens ont accumulé comme ressenti contre lui. Et voilà que la foule de ses amis, de sa famille, des gens qu'il connaît, l'emmène au bord du précipice, là, qui est à l'extérieur de Nazareth, et le menace de le jeter en bas. Et là, de manière très belle, Jésus se retourne face à eux et il sait que c'est pas encore son heure. Enfin voilà, on est un peu dans ce mystère de son propre destin. Et le texte dit, il passe au milieu d'eux. Il fait son chemin au milieu de la foule qui finalement arrête de vouloir le tuer parce qu'ils avaient déjà les cailloux dans la main. Et je trouve il passe au milieu d'eux est très très beau comme chemin parce que c'est bien au milieu de nous que ça se joue. C'est pas simplement au milieu de la foule. Les foules ne sont que l'expression de nos désirs personnels les uns et les autres. Et au milieu de nous, il y a cette lutte permanente qui est une lutte que doivent mener tous les vivants. Est-ce que je choisis la vie ou est-ce que je choisis la mort, comme disait le Deutéronome?
Est-ce que c'est important de prendre acte qu'en nous, il y a de la violence, il y a du ressenti, il y a des mouvements de haine?
Oui, et on pourrait dire encore plus simplement, juste reconnaître que nous sommes des pauvres. Cette expérience de la pauvreté qui est la première béatitude, ça aussi ça me trouble beaucoup, que Jésus ouvre son enseignement chez saint Matthieu en disant « Heureux si vous savez que vous êtes des pauvres ». On n'avance pas comme des puissants, comme des riches, comme des gens qui rêvent à être des gens extraordinaires ou qui rêvent même à être des saints. Parfois notre discours sur la sainteté est tellement idéalisé, tellement enjolivé qu'on oublie d'être des pauvres. Et on va se mettre à admirer des personnalités formidables qui ont des charismes extraordinaires. Et malheureusement, notre histoire récente nous montre que ça ne suffit pas et que ces hommes et ces femmes sont d'abord des pauvres avec leur propre part de péché, leur propre lutte à mener. Ils n'ont pas toujours tout mené bien et chacun de nous, on en est là.
Mais ça ne fait pas très envie d'être un pauvre.
C'est que notre langue française, elle est un peu marquée. La pauvreté est un mot très négatif parce qu'on le rend équivalent au mot de la misère. Or, pour moi, il y a une grande différence. Quand à TD Carmonde, on lutte contre la misère, on ne lutte pas contre les pauvres. Et à force de ne pas assumer le mot de pauvreté, finalement, les pauvres deviennent pour nous des ennemis dont on veut se débarrasser, comme s'ils étaient un problème dans notre société. Et on les repousse loin de notre regard, comme s'ils étaient des obstacles à notre propre vie qui, elle, devrait forcément être paisible, confortable, riche et puissante. Et à ce moment-là, si nous ne laissons pas la place aux pauvres sociaux, aux gens qui ont un peu moins de moyens que nous, mais si dans notre propre vie, on ne laisse pas la place à notre part de pauvreté, parce que je ne suis pas toujours fort, je ne suis pas toujours à la hauteur, moi aussi j'ai des contradictions et moi aussi je n'ai pas tout compris, si je ne laisse pas place à ça, alors la violence peut s'entretenir parce qu'elle va utiliser ce mal-être.
Alors ça va loin, parce que dans votre livre, vous citez Jacques Ellul qui dit qu'il faudrait savoir changer de camp dès qu'on est dans celui de la victoire. Il faudrait toujours être dans le camp des perdants, des pauvres et des affligés.
Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai lu ça. Ça m'a vraiment bouleversé parce que ce que dit bien Ellul, c'est que c'est toujours en conscience. Si à un moment donné, dans les luttes que nous menons, on considère qu'il faut être de ce côté-là de l'histoire, c'est à chacun, dans la prière, dans le discernement, de vérifier si c'est bien ça qui nous est demandé, ou en tout cas si c'est cette manière-là de répondre. Mais nous devons le faire comme des pauvres, parce que si je prends parti dans l'histoire, dans tel ou tel côté, inconsciemment, je vais considérer peu à peu que moi, je suis dans la vérité de l'histoire, et donc ceux qui sont en face sont dans l'erreur. Et que donc, notamment les pauvres du clan en face, contre lesquels je lutte et contre lesquels je peux prendre les armes ou contre lesquels je vais pouvoir me défendre, je vais créer la pauvreté ou de la violence en face. Et donc, inconsciemment, je veux dire, mais de toute façon, ils l'ont mérité puisqu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Et à partir du moment où je crée cette division dans mon cœur entre les bons pauvres et les mauvais pauvres dans l'histoire, j'empêche l'affirmation du Christ, Dieu sauveur. C'est plus une affirmation universelle, ça deviendrait une espèce de catégorie réservée à certains qui sont du bon côté de l'histoire. Or, Jésus s'est manifesté comme le sauveur de tous. C'est ça que dit Ellul. Vous pouvez mener des combats, et heureux êtes-vous si vous le faites, surtout quand c'est pour défendre la dignité de populations menacées ou de résister à des dictatures ou à des choses insupportables. Mais ne rêvez jamais à devenir des puissants. Si, par hasard, l'histoire vous donne raison, quittez vos amis et allez vous occuper de ceux qui sont maintenant menacés par la violence, de ceux qui ont gagné.
À demain pour poursuivre. Merci.